Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
C'est sans doute l'un des plus vieux rêves de l'humanité que des passionnés un peu fous ont réalisé au tournant du XXe siècle, voler grâce à des ailes. Passé le temps des premiers engins volants aux allures d'oiseaux fragiles, puis celui des premiers records spectaculaires, les avions ont connu un développement fulgurant au cours du XXe siècle, entre les guerres mondiales et le progrès grandissant de l'aviation civile. Aujourd'hui, sous le feu des critiques en raison de la pollution émise par des avions de plus en plus nombreux dans le ciel, l'aviation, âgée d'à peine plus d'un siècle, doit déjà se réinventer. Aviation, ça plane pour moi, c'est l'histoire d'un rêve ailé qui sera la nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter cette histoire à tire-d'aile, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Michel Polacco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'aéronautique et de l'espace, auteur notamment de l'histoire de l'aviation aux éditions Grunt. Nous sommes également en ligne avec Jean-Marc Olivier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès et co-directeur avec Rémi Pêche du livre « Histoire de Toulouse et de la métropole » aux éditions Priva. Mais pour ouvrir notre conversation, quoi de mieux qu'un extrait du livre « Terre des hommes » d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est paru en 1939.
Avec l'avion, nous avons appris la ligne droite. À peine avons-nous décollé, nous lâchons ces chemins qui s'inclinent vers les abreuvoirs et les étables où serpentent de ville en ville. Affranchis désormais des servitudes bien aimées, délivrés du besoin des fontaines, nous mettons le cap sur nos buts lointains. Alors seulement, du haut de nos trajectoires rectilignes, nous découvrons le soubassement essentiel, l'assise de roc, de sable et de sel, où la vie, quelquefois, comme un peu de mousse au creux des ruines, ici et là se hasarde à fleurir. Nous voilà donc changés en physiciens, en biologistes. Nous voilà jugeant l'homme à l'échelle cosmique, l'observant à travers nos hublots comme à travers des instruments d'étude. Nous voilà relisant notre histoire.
Voilà un extrait de cet indépassable texte sur le vol, ce Terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Marc Olivier. Sans remonter jusqu'au mythe d'Icare qui veut se faire moins lourd que l'air, on peut peut-être remonter aux toutes premières tentatives de l'histoire de l'humanité de voler qui se retrouve, je crois, du côté de la Chine au 1er siècle. Alors avec quoi on essayait de s'envoler en Chine au 1er siècle?
Alors, en Chine, on pratique beaucoup l'usage du cerf-volant dès le 4e siècle avant Jésus-Christ. Bon, après, les sources manquent, mais il y a probablement eu des gens suspendus à ces cerfs-volants, mais ça n'a pas été très concluant. Mais il y a d'autres mythologies. Hein. La mythologie perse raconte les tapis volants. Bon, là aussi, je ne pense pas qu'il y ait de preuves qu'ils aient existé. L'Antiquité égyptienne aussi s'est livrée un peu au modèle réduit avec des jouets souvent en bois léger, genre le balsa. Pour faire des sortes de modèles réduits d'avions. Donc il y a eu beaucoup d'expériences sans suite, il faut bien le dire. Mmh. Il faut attendre le 19e siècle pour que les choses bougent vraiment.
Attendre le 19e siècle, peut-être, Michel Polacco, qu'on peut faire un détour du côté du 15e siècle et des croquis assez célèbres de Léonard de Vinci. Qu'est-ce que de Vinci met en évidence par ses croquis et en quoi est-ce qu'on peut considérer quand même ces croquis comme des croquis assez sérieux? Comme précurseur finalement d'une aviation future.
Vinci est un savant, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est vrai que les dessins qu'il a faits sont en quelque sorte prémonitoires sur la naissance de l'avion et de l'hélicoptère. Néanmoins, quand on les regarde en détail, et quand on a essayé plus tard d'imiter ces dessins pour arriver à en tirer des objets, on s'aperçoit qu'il manque beaucoup de choses. Mais lui-même a quand même essayé d'illustrer ce rêve inouï de la vie de ceux des vivants de la Terre. J'en parlais avec Yves Coppens il y a quelques années. Les animaux qui marchent regardent les oiseaux et comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas les rattraper. Les premiers hommes, Toumaï, Lucie, quand ils se sont mis debout, ont vu ce ciel, et ils ne savaient pas si ce serait avec des avions, avec des fusées, si ce serait pour aller voler et chasser, ou si ce serait pour aller dans l'espace. Mais toujours est-il que pendant des dizaines de milliers d'années, les vivants, puis les humanoïdes, les hominidés, puis enfin les savants, comme Léonard de Vinci, ont cherché des moyens pour arriver à voler. Finalement, il a fallu arriver à la célèbre chemise sur le feu des frères Montgolfier pour trouver le ballon, la montgolfière non dirigeable, qui va être le premier moyen pour faire voler des animaux et des êtres humains à la fin du 19e siècle.
À la fin du 18e siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, là, vous l'évoquez, jusqu'au 18e siècle et ce premier ballon des montgolfiers, la seule force motrice envisageable est la force du muscle. Jean-Marc Olivier, ça, les frères Montgolfier vont réussir, justement, avec cette idée du ballon propulsé par de l'air chaud à faire s'envoler un premier véhicule. À quoi ça ressemblait et quel en est le principe? Là, l'idée, c'est d'encore être plus léger que l'air, c'est ça?
Exactement, oui. Bon, comme chacun le sait, l'air chaud est plus léger que l'air ambiant. Donc, le principe est simple. On l'a quand même testé d'abord avec des animaux.
Oui, ça, c'est l'anecdote est vraiment rigolote. Racontez-nous ça, oui.
On a d'abord transporté, je crois qu'il y avait, il me semble qu'il y a un chien, mais il y a un autre animal.
Un coq, un canard, un mouton. Coq.
Ah non, il n'y a pas de chien, excusez-moi. Je suis spécialiste plutôt de l'industrie aéronautique, donc je ne remonte pas aux frères Montgolfier, oui. Mais bon, c'était un ballon captif, il y avait une corde quand même qui le retenait. Mais très vite, on est passé, enfin, c'était une montgolfière. Après, on a très vite distingué les montgolfières à air chaud, donc avec brûleur en dessous. C'était un peu complexe, un peu lent. Au ballon, gonflé avec des gaz plus légers que l'air, comme l'hydrogène, par exemple, ou l'hélium. Mais le problème de l'hydrogène, c'est que c'est très inflammable. Donc c'était risqué. Il y avait des applications militaires. Certaines batailles de la Révolution, on a pu observer les positions adverses avec ces ballons. Mais Napoléon a supprimé ce régiment de ballons parce qu'il estimait que c'était trop lourd, trop encombrant, trop lent par rapport à ces mouvements qui étaient des mouvements rapides. Donc c'était une expérience assez brève.
Michel Polaco, donc on évoque ces montgolfières, puis ces dirigeables. On connaît un peu l'histoire du dirigeable et son histoire assez funeste. On a tous un peu en tête les images de la catastrophe de Hindenburg avec ce grand zeppelin en flammes qui...
Hindenburg. Voilà. Mais enfin, quand même, avant, il a eu de belles heures. Il a quand même eu de très belles heures, le dirigeable.
Bien sûr.
Si vous voulez, depuis la France, en 1880 à peu près, qui a été fait à Meudon et qui quand même permettait de choisir sa destination. Mmh. N'oubliez pas que pendant la guerre de 1870, on expédiait le courrier de Paris assiégé avec ce qu'on appelait des ballons montés, et que c'est comme ça que Gambetta a pu quitter la ville de Paris pour rejoindre ce qu'il voulait être les troupes françaises sur les bords de la Loire, et qui s'est retrouvé à Beauvais, à côté des troupes allemandes, heureusement, enfin prussiennes. Heureusement, il n'est pas tombé entre les mains des Prussiens. Mais c'est vrai que les ballons allaient au gré des vents, et c'était pas très commode. Alors ça avait commencé à Fleurus, avec un ballon captif qui servait à faire de l'observation sur les forces adverses, mais ça, c'est pendant la Révolution. Bon, Napoléon, c'est vrai, pendant la campagne d'Égypte, a abandonné les ballons, d'ailleurs, dans les cales des bateaux qui ont été coulés à Boukir, etc. Et finalement, bon, les ballons dirigeables, au début du XXe siècle, ont quand même eu une petite vogue. La marine nationale française armait des ballons. Elle avait des gens comme Duplessis qui naviguaient, puisque c'était des marins qui faisaient naviguer les ballons, et qui ainsi pouvaient se déplacer, traverser la Méditerranée, etc., etc. Mais c'est vrai que bon, c'était des appareils extrêmement vulnérables, que l'aviation qui a commencé à naître très très vite a condamné les ballons à mort, parce que pendant la guerre, ils étaient abattus par les premiers avions. Et puis alors ensuite, c'est vrai, dans les années 30, quand on a développé les dirigeables commerciaux de transport de passagers qui emmenaient 70-80 passagers au-dessus de l'Atlantique ou qui ont fait le tour du monde, hein, comme le Hindenburg. Cet hydrogène qui les gonflait, puisqu'à l'époque, les Américains, qui étaient les meilleurs, les plus grands producteurs d'hydrogène, ne voulaient pas fournir d'hydrogène aux nazis. Évidemment, c'était un gaz inflammable. Et en 1937, le Hindenburg à Lakehurst a été touché par la foudre apparemment, et il y a eu une trentaine de morts. Enfin bon, c'était une catastrophe qui a signé la fin des hydravions, des ballons, comme d'ailleurs très peu de temps après, les hydravions vont disparaître eux aussi, battus par les avions terrestres.
Alors là, on parle de ces montgolfières, de ces dirigeables qui ont un principe différent de celui des avions, Jean-Marc Olivier. Et nous, on va se concentrer vraiment sur les avions. C'est le fait que des plus lourds que l'air puissent voler dans les airs. Quels sont les éléments indispensables quand on arrive au 19e siècle et à ces prémices de l'aviation, Jean-Marc Olivier, pour qu'un engin plus lourd que l'air puisse voler?
Alors oui, les essais ont été multiples. Au début, on croit encore à l'ornithoptère, c'est-à-dire une sorte d'avion à aile battante, mais c'est beaucoup trop complexe et c'est assez vite abandonné. Ensuite, on travaille beaucoup avec des modèles réduits. D'ailleurs, il y a une étudiante qui fait une thèse sur modèles réduits et début de l'aviation, Jessica Forit, en ce moment, qui va être très intéressante. Et donc, on travaille avec des modèles réduits, des souffleries qui permettent de tester aussi ces modèles réduits. La première soufflerie est mise en place en Angleterre dès 1871. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura les souffleries françaises avec Chalet-Meudon, etc. Et les matériaux utilisés sont des matériaux qui se veulent légers. Donc de la toile, du bois, du cuir. Bon, il y a des parties mécaniques, bien sûr, pour le moteur. Le grand défi, c'est la propulsion, de mettre au point une bonne hélice et puis surtout un moteur qui présente un rapport poids-puissance très favorable. Et le gros problème, c'est la machine à vapeur. Elle est très lourde. Et même si Clément Ader a réussi à réaliser une machine à vapeur puissante et légère, c'est quand même pas évident pour faire décoller son avion. On hésite encore pour dire que est-ce que Clément Ader en 1890 a vraiment décollé.
On y reviendra.
Il a pas fait juste quelques sauts et seulement.
On y reviendra bien sûr à cette figure qu'est Clément Ader, mais avant ça, Michel Polacco, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu des tout premiers pionniers, de George Cayley en Angleterre, mais aussi de Henson avec son fameux Ariel. Voilà, ces premiers avions, ils ont quelle trombine, à quoi ils ressemblent finalement? Parce que quand on voit les images, on se dit mais c'est pas possible d'avoir réussi à conceptualiser ça en se disant que ça allait voler.
C'est-à-dire qu'on part quand même de l'idée des oiseaux. Donc on part avec des formes qui sont, en fait, l'histoire le montrera, totalement inadaptées. Et le premier qui va, dans le monde, arriver quand même à inventer un vol à peu près efficace, c'est Lilienthal. N'oubliez pas que Lilienthal a fait près de 2500 vols avec des planeurs avant de se tuer, malheureusement, à la fin du 19e siècle. Mais les travaux de Lilienthal ont été très utilisés, très analysés. Octave Chanute, qui était un savant médiateur installé aux États-Unis, a fait passer tous ses travaux entre les mains des frères Raët. Et en fait, on peut dire que Lilienthal, qui avait travaillé sur une autre voie que Clément Ader, a dessiné un planeur, c'est-à-dire non motorisé, qui avait des véritables qualités de vol, et que ces qualités de vol, lorsqu'on a pu leur adjoindre un moteur un peu performant, c'est-à-dire un moteur à pétrole et non pas un moteur à vapeur, ont débouché sur deux premiers avions pas très performants, mais enfin sur deux premiers avions. Vous voyez, les frères Raët vont voler en 1903, bon, après que Clément Ader ait fait trois tentatives et inventé le mot avion, ne l'oublions pas, puisqu'il a fait voler d'abord l'Éole, puis ensuite l'avion 2 et l'avion 3. Et en 1903, les frères Raët vont arriver à faire voler un appareil qui est quand même lancé par une catapulte, qui n'est pas capable de se mettre tout seul en l'air. Et c'est un Brésilien, c'est Santos Dumont, qui à Bagatelle va finir par faire voler le premier appareil dont on peut dire que c'est un avion complet.
Alors là, on va pas brûler toutes les étapes tout de suite. Jean-Marc Olivier, si vous voulez bien, peut-être qu'on peut revenir sur cette idée de la coexistence et de la coévolution des planeurs et des avions. Ça, c'est très important aussi pour comprendre un petit peu, ne serait-ce que des questions de portance dans l'air, de comment développer les ailes, etc. Ça, tout ça, c'est des travaux qui sont réalisés de front. Bien sûr, le planeur restera un peu dans l'ombre de l'avion plus tard, mais ça, c'est important de le rappeler.
Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, Clément Ader commence par faire voler des cerfs-volants dans les collines du Lauragais au sud-est de Toulouse. Hein. Donc il a une passion pour la technique, mais il s'intéresse à la portance, à l'imitation des oiseaux. Donc ces avions, d'ailleurs, l'Éole puis les suivants, ont des ailes en forme de chauve-souris. Mais l'imitation, que ce soit chez les planeurs ou chez les avions plus lourds que l'air motorisés, par des oiseaux. On a des recherches qui sont faites dans le monde entier parce que il y a beaucoup de pays qui revendiquent le premier vol. Par exemple, au Japon, en 1891, il y a le premier vol de l'avion corbeau, par exemple. Hein. Est-ce que il a été réel ou pas? Bon, ça aurait été un bond de 3 mètres. Donc, vous voyez, c'est très modeste. Donc, Lilienthal, lui, c'est davantage attesté. Ça, c'est évident. Il a beaucoup fait progresser les choses. En amont, il y a toute la théorie, oui, il y a des scientifiques qui se passionnent, qui déterminent quelles sont les différentes forces, les quatre forces, etc. Vous avez évoqué, par exemple, George Cayley. Oui, lui, dès 1809, il a identifié les quatre forces qui agissent sur un plus lourd que l'air. Donc le poids, la portance, et puis la poussée et la traînée. Donc la théorie a précédé la pratique, et ce qui a permis aussi de faire de multiples essais. Les Wright commencent par des planeurs aussi. Mais ce qui est décisif, c'est qu'au milieu des années 1860, alors qu'auparavant, c'était des essais isolés, à partir des années 1860, il y a une volonté de partager les savoirs avec des personnages qui vont apparaître comme Octave Chanute, bien sûr, qui ensuite, dans les années 1890, publie tout ce qui est sorti. Et le relais est pris ensuite par des gens comme Nadar qui veulent qu'il y ait des échanges et qu'on progresse tous ensemble. Quoi. Et c'est là que la jonction se fait entre les planeurs et les avions motorisés et que la combinaison des deux permet d'avancer. André Assegni a fait sa thèse d'ailleurs sur ces correspondances entre les pionniers et c'est passionnant. Les Wright étant pas les plus, collaborateurs. Hein. Ils gardent leurs secrets et ils profitent des avancées des autres un peu. Parce qu'eux, ils sont très intéressés par l'argent, les Wright.
Alors, on va y revenir dans un instant aux frères Wright, mais ce sera juste après un petit détour par Disney, c'est l'été.
Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Lisez-moi donc la checklist, petit gars.
Ah, oui. Lunettes en place.
OK.
Volet position décollage.
OK.
Gouvernail.
OK, à droite et à gauche.
Si vous ne réussissez pas à décoller du premier coup, recommencez.
Et c'est parti!
France Culture. Eureka. Antoine Beauchamp.
Michel Polacco, vous évoquiez tout à l'heure les fameux frères Wright qui ont écrit leur nom en majuscule dans l'histoire de l'aviation. En 1902, quel planeur mettent-ils au point? C'est leur planeur le plus réussi. À quoi il ressemble? De quoi il est doté pour qu'on se dise « Ah là, c'est une invention qui va peut-être décoller
». Je pense qu'en 1902, on ne sait pas vraiment que ça va décoller. Hein. Ils ont effectivement trouvé un moyen pour mettre une sorte de gouvernail à l'avant de leur appareil. Ils ont trouvé un moyen pour allonger quelqu'un à bord qui va être le pilote, n'est-ce pas? Et puis, ils ont mis des roues de vélo, puisque ce sont des constructeurs de vélos. Et puis, ils ont réussi à trouver un moteur, mais ce moteur n'est pas suffisant pour faire décoller l'appareil. Donc il va falloir quand même attendre 1903 pour que le premier flyer, donc ça veut dire appareil qui est capable de voler, le premier voleur, prenne son envol. Et ça n'intéresse pas grand monde. Vous savez, nul n'est prophète en son pays, mais alors vraiment, les frères Wright, on peut dire, n'ont pas été prophètes aux États-Unis. Faut quand même pas oublier qu'ils viennent en 1906, je crois, en France, et qu'ils déchargent leur matériel au Havre, d'ailleurs. L'un des deux appareils qu'ils ont amenés a été cassé. Et c'est en France qu'on va les accueillir. On va les recevoir au Mans. On va faire une piste où ils vont faire des démonstrations qui sont pas très, très spectaculaires, mais quand même, ce sont des appareils qu'on arrive à piloter. Ils vont participer à la création d'une école de pilotage à Pau, qui va être une des premières écoles de pilotage de l'histoire. Et puis, à partir de ces travaux-là, En France, un certain nombre de, comment dirais-je, j'ose pas dire industriels, un certain nombre de
d'entrepreneurs,
d'inventeurs, vont essayer de fabriquer des avions. Et c'est comme ça qu'on va voir apparaître les Blériot, les Farman, et que finalement les premiers grands records de l'histoire vont être faits par des avions construits en France, piloté par des Français. Pensez que la traversée de la Manche, c'est Blériot, 1909, que le premier grand meeting aérien au monde, c'est Bétheny, c'est Reims, alors que les frères Raët, qui sont, l'un des deux en tout cas, est resté un bon bout de temps en France, et l'autre s'est tué d'ailleurs, les frères Raët aux États-Unis n'ont vraiment pas eu beaucoup de succès, et l'aviation va se développer d'abord en France.
Jean-Marc Olivier, ça c'est un... alors il y a deux aspects intéressants dans ce que dit Michel Polaco. C'est à la fois le fait que ces inventions qui nous semblent un peu folles aujourd'hui, compte tenu de l'évolution qu'on a connue ensuite de l'aviation, étaient finalement relativement anonymes, n'avaient pas forcément un écho public immense, et par ailleurs que ces inventeurs-là, comme les frères Wright ou alors comme même Clément Ader, tout ce monde-là travaillait un petit peu dans le secret de la préservation de leurs futurs brevets. Ça, c'est aussi un des phénomènes propres à l'histoire de l'aviation.
Alors, ce que vous dites, c'est surtout vrai pour les Wright aux États-Unis, parce que eux avaient conscience qu'ils avaient une certaine avance par les échanges donc épistolaires qu'ils pratiquaient. Mais ils voulaient vendre un avion au point à l'armée américaine. Mais le problème, c'est que justement, en septembre 1908, lors d'une démonstration devant l'armée américaine en Virginie, à Fort Myer, Orville Wright, qui est resté aux États-Unis pendant que son frère Wilbur vient en France, a un accident. L'hélice se brise, ils ont un accident très grave. Et le passager, le militaire passager, est tué. Et Orville est gravement blessé. Donc ça met fin un petit peu au rêve des frères Wright. Et c'est pour ça que Wilbur, lui, vient en France à la demande de Lazare Weyer, un industriel qui a promis des prix. Et en France, c'est la grande différence entre les États-Unis et la France, comme l'a dit un peu Michel Polaco. En France, il y a un succès populaire quand même, parce que les spectacles sont des spectacles un peu idéaux, faciles à organiser. Les avions volent lentement, bas, et il y a beaucoup d'accidents, ce qui malheureusement attire les foules. Et par exemple, la semaine de l'aviation en Champagne qu'a évoqué Michel Polaco, c'est 500 000 personnes. Donc, c'est, vous voyez, c'est mieux qu'au stock, en quelque sorte, avant la lettre. Et ça a beaucoup contribué à populariser. Et l'aviation, les plus lourds que l'air, parce que les plus lourds que l'air, ils peuvent virer assez vite. Ils vont faire des loopings. Et puis, il y a les premières femmes aussi qui participent. Thérèse Pelletier, la première femme passagère. Et puis après, il y a la fameuse baronne de La Roche, Elisa de Roche. Monde vient de différents univers, mais comme le dit très bien Luc Robène dans sa thèse qui a été publiée, l'homme à la conquête de l'air, c'est en fait des aristocrates éclairés, et après on a les sportifs bourgeois. En
quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, justement, après ces premiers décollages, même timides, d'avions, les progrès se font de plus en plus importants, et on rentre dans ce que vous appelez un petit peu le côté spectaculaire, le spectacle de l'aviation naissante, avec ces premiers records qui sont battus, notamment le record de Blériot en 1909 qui traverse la Manche. Écoutez cette archive de 1955 qui fêtait cet anniversaire.
Voici 46 ans, un jour de 1909, Louis Blériot s'envolait de Calais pour franchir le détroit d'un seul bond à quelques 60 km à l'heure. Le raid Calais-Douvres en avion, et quel avion, c'était le premier grand triomphe de l'aviation. Aujourd'hui, on a revu à Calais le même assemblage de bois et de toile qui, avec ses 285 kilos, son moteur de 3 cylindres et ses 60 litres d'essence, vient nous rappeler l'exploit historique du plus lourd que l'air. Avec cet engin, Jean Salis a voulu refaire la tentative de Blériot. Nous avons beau être des familiers du vol supersonique et des vols transcontinentaux, au moment où ce nouveau Blériot quitte le terrain, nous nous posons avec anxiété la même question que les hommes en chapeau melon de 1909. Réussira-t-il ?
Il a réussi, bien sûr, Michel Polaco, cette traversée de la Manche, Blériot, en 1909, en 35 minutes, si je ne dis pas de bêtises. C'est intéressant de se pencher sur ces toutes premières années et des records de l'aviation, Michel Polaco, parce que on a l'impression que ça évolue à une vitesse grand V et que entre les tout premiers décollages timides de quelques centimètres du sol, bah, progressivement, on arrive à s'élever dans les airs. Est-ce que vous pourriez réagir justement à cet aspect spectaculaire de la vitesse de développement de l'aviation dans ces toutes premières années?
Bah écoutez, les premiers, on les appelle, vous vous souvenez, les faucheurs de Marguerite. Ce sont des merveilleux fous volants. Hein, vous voyez, c'est comme ça qu'on les appelle. Quand Blériot traverse la Manche, il fait un concours. LATAM essaye de traverser et termine sur son avion à le sauver, heureusement. Mais enfin, bon, il s'est planté. Manche, ouais. Et par contre, Blériot, lui, va parvenir à traverser la Manche. Mais il n'a pas fini de traverser la Manche, que voilà qu'il faut qu'il parte vers la série de courses et de meetings qui commencent à se développer en France. Et on va avoir même au mois d'octobre le premier salon de la locomotion aérienne qui est hébergé, qui est accueilli par le salon d'automobile au Grand Palais. Mmh. Donc, l'avion commence à se faire sa petite place dans un monde où l'automobile est elle-même naissante et on a l'impression qu'elle est déjà majeure, alors qu'elle est très loin d'être majeure. Mmh. Évidemment, il va y avoir la guerre, mais avant la guerre, la multiplication des meetings est telle qu'on va créer Port Aviation, là où se trouve Orly à peu près aujourd'hui, et c'est une espèce d'immense cirque rond avec des tribunes partout. Et puis, il y a des aviateurs qui viennent et qui tournent en rond, qui essayent de faire des manœuvres plus ou moins complexes. Il y en a plein qui se cassent la figure, il y en a quelques-uns qui se tuent. Et puis, il va y avoir en 1913, Pégou qui, sautant de son avion en parachute, s'aperçoit que son avion fait des figures qui sont intéressantes et amusantes. Et qui donc va essayer de les imiter avec un autre avion, puisque celui-là, il est cassé. Et donc, il va inventer le looping, c'est-à-dire la voltige, 1913. Hein, vous voyez, on en est là, et on n'est pas encore à la guerre. D'ailleurs, les militaires ne croient pas beaucoup à l'aviation, ça les intéresse pas énormément. Ce qui est très étonnant, parce que Clément Ader, qui a peut-être pas vraiment réussi à développer une aviation, a par contre prédit l'avenir de l'aviation, et notamment de l'aviation militaire, dans un ouvrage qui mérite aujourd'hui encore d'être lu, et qui est totalement prémonitoire sur ce qui va se passer dans les guerres qui vont suivre.
Clément Ader, qui lui-même, je crois, avait reçu le soutien du ministère de la guerre pour développer ces premiers avions-là. Jean-Marc Olivier, on en arrive à cette question de l'importance, de l'influence de la guerre sur le développement de l'aviation durant la Première Guerre mondiale. Est-ce que, peut-être même avant la Première Guerre mondiale, on avait déjà testé des avions dans un contexte de conflit guerrier?
Les opérations espagnoles, par exemple, au Maroc, ont donné lieu à des premiers bombardements, les différentes guerres dans les Balkans, mais c'était très expérimental, très localisé. Si on revient à Blériot, qui est quand même l'une des clés, Blériot, en fait, a produit son avion, le Blériot 11, qui traverse la Manche. C'est le premier avion, finalement, rentable. Avant ça, il fallait des sponsors, il fallait des généreux donateurs, etc. Le Blériot 11 a été produit à plus de 800 exemplaires entre 1909 et 1931. Et il équipe en partie l'armée française au début de la guerre, mais comme simple avion d'observation. Et ce qui bouleverse tout, c'est que avec la guerre de tranchées, si on veut gagner la guerre, il faut pouvoir aller observer ce que fait l'ennemi. Où est-ce qu'il concentre des forces? Où est-ce qu'il a des points faibles où on peut attaquer? Et c'était un rôle dévolu à la cavalerie, cette observation. Avec les tranchées, les cavaliers ne peuvent plus aller faire aucune observation. Donc la seule solution, c'est l'avion d'observation. Et c'est la clé de la victoire, plus que le chasseur. Le chasseur, en fait, ne sert qu'à protéger les avions d'observation qui vont ramener, alors, par message lancé de l'avion, puis par pigeon voyageur, puis par radio, les éléments tactiques et stratégiques capitaux qui permettent de remporter ce conflit.
Michel Polacco, l'aviation connaît du coup un développement un petit peu exponentiel au moment de la Première Guerre mondiale. Je lisais que au début de la guerre, il y avait 500 pilotes militaires qui étaient formés. À la fin de la guerre, 17 500. On perçoit bien tout de suite l'investissement qui a été apporté par les armées dans la formation de pilotes. Des pilotes, comme le disait à l'instant Jean-Marc Olivier, des pilotes qualifiés d'observateurs, pas encore de chasseurs. Est-ce qu'il y a quand même, durant la Première Guerre mondiale, le développement d'avions plus dédiés au combat? Et si oui, sur quoi vont porter ces développements?
Alors, comme le disait Jean-Marc Olivier, ce sont les cavaliers qui vont être renforcés ou remplacés par les aviateurs. Et il en reste quelque chose que vous vivez tous les jours. Pourquoi monte-t-on par la gauche dans les avions de ligne, dans les avions de chasse? Eh bien, on monte par la gauche parce que les cavaliers montent par la gauche sur leurs chevaux. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous est resté. Et puis, deuxièmement, la cavalerie, c'était une certaine aristocratie par rapport à l'infanterie qui marchait à pied. Donc, si vous voulez, les aviateurs, pendant la guerre de 14, vont appartenir quand même à une certaine aristocratie. Ils ont d'ailleurs des principes. D'ailleurs, il y en a qui n'emmènent pas de parachute parce qu'ils considèrent que c'est déloyal de pouvoir quitter son avion si on a été abattu. Bon, enfin, évidemment, on commence avec des avions dits d'observation qui vont aller aider à faire le réglage de tir, de l'artillerie, etc. Mais pour empêcher ces avions de faire leur boulot, on va inventer la chasse. Et puis, quand on aura inventé la chasse, on va inventer le bombardement. Et évidemment, il va falloir à chaque fois fabriquer les avions qui vont bien pour pouvoir assurer ses missions. Alors, on va avoir les Caudrons, on va avoir les Breguets, on va avoir les Nieuports, on va avoir les Potez, etc. Et c'est comme ça que les SPAD, c'est comme ça que le célèbre Guynemer va se retrouver dans son célèbre vieux Charles, qui est le SPAD 7, dont on a tant parlé dans l'histoire, puisque c'est l'as français aux 70 et quelques victoires de la guerre de 14. Mais pendant cette guerre de 14, on va développer des petits, des moyens, des gros avions, tant et si bien qu'en 1918, alors effectivement, on avait 500 pilotes en 14, on en avait 17 500 en 18, mais entre-temps, on en avait tué des milliers. Cela, on n'en parle pas. Ouais. On a fabriqué presque 100 000 moteurs pendant la guerre de 14. Les usines étaient réquisitionnées pour fabriquer des avions. Les femmes travaillaient dans les ateliers et fabriquaient des avions. La fabrication d'avions a été quelque chose d'absolument considérable. Je crois qu'on a dû fabriquer entre 30 ou 40 000 avions, rien qu'en France, et notamment pour les Américains. Quand ils sont venus, ils utilisaient des avions français. Les Italiens, qui appartenaient à la coalition, utilisaient des avions français. Les Japonais, etc., etc. Donc ça a été une industrie absolument faramineuse, l'aviation. Sauf que en 1918, on se retrouve avec des dizaines, des milliers d'avions, et même on peut dire des dizaines de milliers d'avions et de pilotes, et tout ça, ça va te servir à rien. Pas possible. Donc on passe au point suivant, que vous allez aborder, évidemment.
Qu'on abordera, bien sûr, tout à l'heure, mais avant cela, Jean-Marc Olivier, vous souhaitiez réagir.
Oui, exactement. Comme l'a très bien dit Michel Polacco, tout change d'échelle pendant la Première Guerre mondiale. Alors c'est une parenthèse par contre pour les femmes qui étaient assez présentes avant la Première Guerre, mais qui, bien sûr, sont mises en... À part peut-être un petit peu Hélène Dutrieux qui a fait un peu d'observation au tout début de la guerre, mais c'est tout. Les autres sont écartées. Mais ce qui se décide, et en tant que Toulousain, bien sûr, je suis obligé d'en parler, c'est le début de l'aéronautique à Toulouse, parce que Clément Ader est originaire de la région toulousaine, de Muret plus exactement, enfin. Mais pendant la Première Guerre mondiale, il y a une décision qui est prise par l'État français. Il faut produire plus d'avions d'observation, et en particulier l'excellent Samson 2A2, qui est produit dans la région parisienne, qui est le meilleur avion d'observation, et qui est équipé même à l'avant de deux mitrailleuses avec tir synchronisé à travers l'hélice. Hein. Et Samson n'arrive pas à en produire assez. Et en plus, Paris est trop près du front. Donc on propose à des industriels du Sud, loin du front, de produire sur plan des avions. Et là, il y a un personnage qui est à Toulouse, qui a une usine de wagons, Pierre-Georges Attécoer, qui accepte le défi. Il n'a jamais produit un avion de sa vie. Il n'est jamais monté dans un avion. Mais il accepte de produire sur plan le Samson 2A2. L'État lui paye une nouvelle usine, l'usine de Montaudran, qui est maintenant un bâtiment consacré à l'art, etc., mais qui existe toujours au sud-est de Toulouse. Et là, il réussit à produire le Samson 2A2 à presque 1 000 000 d'exemplaires pendant la période 1917 et surtout 1918, la fin du conflit. Cet excellent observateur, donc cet avion d'observation, joue un rôle décisif. Mmh. Et c'est donc le début de l'industrie aéronautique à Toulouse, parce que tout est lancé, et tout va continuer à partir de là. Le groupe Latécoère, d'ailleurs, existe toujours.
Bien sûr.
Et c'est une formidable aventure qui commence et qui va donner Toulouse capitale mondiale de l'aéronautique aujourd'hui.
Et une industrie qui va infuser, bien sûr, dans le domaine civil. Restez avec nous, on en parlera dans un instant. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Aeroplane over the sea par Neutral Milk Hotel dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'invention de l'avion. Et nous en parlons avec Michel Polaco, journaliste spécialiste de l'aéronautique et de l'espace, auteur notamment de l'histoire de l'aviation aux éditions Grunt. Nous sommes également en ligne avec Jean-Marc Olivier, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès, co-directeur avec Rémi Pêche du livre Histoire de Toulouse et de la Métropole aux éditions Priva. Alors Michel Polaco, vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait que à l'issue de la Première Guerre mondiale, on ait tous ces avions sur les bras, il faut bien en faire quelque chose. Et là, l'entre-deux-guerres va finalement marquer un petit peu la naissance de l'aviation civile. Ça commence par quoi? Ça commence pas tout de suite par le tourisme et par l'ouverture des vols peut-être court-courriers à du public, mais ça commence avec d'autres éléments.
Vous avez en parallèle deux événements qui se produisent. L'un qui est lié à ce que disait Jean-Marc Olivier il y a un instant, c'est-à-dire que l'industriel toulousain Pierre-Georges Latécoère, qui fabriquait des wagons avant-guerre, se retrouve avec une usine d'avions, et que c'est devenu aussi un spécialiste de l'aviation. Et il comprend pas ce qu'il va faire avec tous ces avions. Alors il invente l'aviation postale, ça va être la naissance des lignes aériennes Latécoère, et qui vont déboucher sur l'aéropostale, qui deviendra l'un des composants de la compagnie nationale Air France. Et il va se fixer un objectif, parce qu'il a peur de rien, c'est-à-dire d'aller de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili pour amener du courrier. Il va embaucher un type fantastique qui s'appelle Didier Dora, qui lui-même va embaucher des bons hommes qui va faire marcher au Knut et qui seront des génies en quelque sorte, Antoine de Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz etc. Enfin, une quantité absolument incroyable de pilotes, dont beaucoup malheureusement vont mourir, parce que l'histoire de l'aéropostale, des lignes aériennes Latécoère, c'est aussi l'histoire de mécaniciens, de pilotes, d'observateurs qui ont été victimes d'accidents, parce qu'il fallait que le courrier passe. C'était ça passe ou ça casse. Didier Dora n'avait pas beaucoup d'humour dans ce domaine. Il fallait absolument réussir à démontrer que l'aviation pouvait faire le boulot. Alors ça, c'est le transport de poste qui va déboucher d'ailleurs sur quelques transports de passagers. À petite anecdote, un jour, ils avaient deux passagers dans un avion. Il y a eu une très forte turbulence. Les deux passagers, l'avion est passé sur le côté. Les deux passagers sont tombés. À l'époque, on mettait pas de ceinture de sécurité dans les avions, voyez-vous. Bon. Et puis, alors, en même temps et en parallèle, vous avez des avions beaucoup plus gros, des bombardiers, comme les Farman, Goliath, par exemple. Vous avez ceux qui vont créer les premières lignes aériennes. Et voyez, la guerre s'arrête le 11 novembre 1918. Février 1919, on ouvre Paris-Londres. Paris-Londres, avec un Farman Goliath, avec Lucien Boussoutreau. Oui. Et on va commencer à trimballer des passagers sur des lignes qui traversent carrément la Manche. Alors, ils ont des sièges en osier. Si vous allez au musée de l'air et de l'espace du Bourget, que je vous recommande, vous pourrez voir une cellule. Il n'y a pas l'aile parce que ça prend trop de place. Mais vous pourrez voir la cellule d'un Farman Goliath. Et puis,
mais le confort était relativement sommaire encore.
Les brigades vont faire les lignes de la franco-roumaine. Ouais, enfin, c'est sommaire, mais c'est pas mal. Hein. Mm-hmm. C'est des avions qui vont à 280 km/h, qui sont quand même capables, sans escale, de faire à peu près 500 km. Alors, vous avez la naissance des lignes Paris-Londres, mais vous allez avoir les lignes qui vont jusqu'à Bucarest avec la franco-roumaine. Et moi, je me souviens avoir lu un jour dans cette merveilleuse revue qui s'appelle Icar, l'histoire de Louis Guiton, qui était pilote à la franco-roumaine et qui était à bord d'un Breguet avec 5 passagers et qui volait par mauvais temps. Et à un moment donné, il était en altitude, dans les nuages. L'avion s'est mis à rouler sur quelque chose. En fait, il était en train de, dans les nuages, de rouler sur un haut plateau. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. Il est rentré dans rien. Il a continué sa route et il a terminé dans un champ à côté de Bucarest. Si vous voulez, c'était vraiment des casse-cou. Ils avaient peur de rien. Alors, les Allemands ont été pareil, des gens qui ont beaucoup développé de lignes aériennes. Les Hollandais, les Britanniques. Et les Américains, de leur côté, ont aussi développé beaucoup de lignes aériennes. Ce qui fait qu'à partir de 1922-23, on avait de l'aviation postale, on avait vraiment de premières liaisons aériennes qui existaient, et puis on avait aussi beaucoup de meetings aériens, parce que c'était une époque de records. Alors ça, c'est pas les avions de la guerre qui faisaient les records, c'était des avions améliorés, faits par des constructeurs qui existaient ou pas pendant la guerre, mais pour certains c'est le cas, Caudron par exemple, qui a fabriqué des avions de record absolument fantastiques, et c'était le plus haut, le plus vite, aviez le record
le plus long nombre de
boucles. Alors, bien sûr, vous aviez des records de distance, hein, Paris-Saïgon, les Nogues, qui faisaient des vols, évidemment, avec des escales, pas possible autrement, qui se posaient dans des pays absolument impossibles, dont ils ne parlaient aucune langue, et dans lesquels ils n'étaient absolument pas sûrs de trouver ni même du carburant, et encore moins des pièces détachées, des pneus, etc., etc. Mais ces gens n'avaient absolument peur de rien. Ils ont véritablement, dans les années 20-30, parcouru le monde. Ils ont établi toutes les premières grandes liaisons. Ils ont traversé la Chine, ils ont traversé l'Asie, ils ont traversé l'Amérique du Sud. Adrienne Bolland, en 1920, a traversé la cordillère des Andes. Ce petit bout de femme qui avait quelques heures de vol et qui avait appris à piloter au Tréport à l'école de Caudron. Donc, si vous voulez, ces gens n'avaient peur de rien et ces gens étaient des aventuriers absolument incroyables. Et ce sont ces gens-là qui, entre 1920 et 1940, ont inventé d'une part une aviation terrestre qui devenait de plus en plus performante et d'autre part ont essayé d'inventer une aviation transatlantique ou transpacifique avec des hydravions, dont les Latécoère très célèbres comme les Latécoère 521 ou 131, qui ont eu une carrière très écourtée par l'arrivée de la guerre de 39 et qui ont été complètement éliminés par les progrès qui ont été faits pendant la guerre de 39-45. Mais c'était absolument inouï, plus haut, plus vite, plus loin, Tout le monde les admirait. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, des Maryse Ilse, des Maryse Bastier, des Amelia Earhart, des femmes comme Bessie Coleman, qui était la première femme pilote, des Hélène Boucher, qui est morte d'ailleurs en faisant des exercices de voltige. C'est assez fou.
Et tout ça, Michel Polaco, si vous me permettez de vous interrompre.
L'aviation déchaînait la passion.
Ouais. Et tout ça passe par des progrès techniques évidents dans le domaine de l'aviation. Alors Jean-Marc Olivier, par quel progrès technique passe ce boom de l'aviation dans les années 20-30? Qu'est-ce qu'on apporte comme amélioration à ces engins volants?
Alors on change bien sûr les matériaux déjà. C'est-à-dire que la toile, le bois. À la rigueur, les tubes métalliques sont remplacés par des alliages d'aluminium, en particulier le duralumin, qui est un alliage très rigide et léger. On a d'ailleurs eu deux thèses sur ces alliages faits par des scientifiques historiens. C'était très intéressant. Donc ça change tout. Et les excellents avions de chasse de la fin des années 30, hein, le Spitfire, le Hurricane, le Messerschmitt BF-109 ou le De Wettin D-520, sont construits en grande partie en duralumin. On motorise aussi avec des moteurs bien plus puissants. Bon, on a abandonné totalement la vapeur, évidemment, des moteurs très performants. Et un des hommes clés dans ces progrès techniques en France, c'est le fameux Émile De Wettin, qui était embauché. C'est un technicien qui vient du Nord, un mécanicien passionné d'avions, qui est envoyé pendant la Première Guerre aider les Russes à produire dans le sud de l'Empire du Tsar des avions. Mais en 1917, il est renvoyé en France, et là, il est envoyé à Toulouse aider Pierre-Georges Latécoère. Et il joue un grand rôle dans la production d'avions. Mais surtout, lui, en 1919, il veut continuer à produire des avions de chasse parce que c'est un passionné. Il veut augmenter les performances. Et par exemple, il produit dès 1920 le D1, le premier De Wettin, qui est vendu jusqu'au Japon et qui est le modèle d'avion de chasse qui se développe ensuite. Mmh. Et puis, le plus connu, c'est le fameux D-520, l'avion de chasse le plus performant de l'aviation française en 1940, qui a abattu pas mal de Messerschmitt BF-109 et qui a permis à l'Angleterre de remporter la bataille d'Angleterre. Et ce D-520, c'est le modèle typique. Enduralumin, moteur très puissant, Elbas cantilever, donc très maniable, qui fait de lui un des meilleurs chasseurs français. L'aviation française n'a pas été si mauvaise en 1940, mais on l'a pas vu parce que ces combats avaient lieu à très haute altitude. Oui. Donc Émile De Wettin, lui, il a continué à produire des avions. Bon, tout est nationalisé en France en 1936. Lui, il accepte à condition de rester directeur. Et l'État français lui construit une usine nouvelle, Saint-Martin-du-Touche. C'est l'emplacement historique de l'usine de Toulouse. Quand vous atterrissez à Toulouse-Blagnac, hein, vous avez des usines avec une arche en béton. C'est ce qui a succédé aux usines d'Émile De Wettin. Mmh. Et c'est là qu'il a produit le D-520. Donc c'est le site d'Airbus aujourd'hui. Hein.
Michel Polaco, on évoque là la Seconde Guerre mondiale, qui pour le coup est vraiment une guerre qui passe énormément par les airs également. Qu'est-ce qui va consacrer l'aviation dans ce conflit-là? Et quel type d'avions vont être pensés, imaginés, qui n'avaient pas été développés pendant la Première Guerre mondiale?
Alors, si vous voulez, Première Guerre mondiale, la durée de vie d'un moteur est de l'ordre de 20-25 heures. Marc Birkitt, le patron d'Hispano-Suiza, arrive à proposer un moteur qui est capable de tenir à peu près 50 heures. D'ailleurs, le Breguet 14 est obligé de changer à peu près toutes les 50 heures son moteur. Pendant la guerre de 39-45, les Américains vont développer des moteurs. Alors, on a fait des progrès hein, dans les années 20, dans les années 30. Mais pendant la guerre de 39-45, les Américains vont développer des avions et des moteurs qu'ils vont produire au rythme de 1000 par jour. 1000 avions par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lorsque Pearl Harbor se produit, il y a une mobilisation de l'État, de la nation américaine, qui est absolument faramineuse. Ils vont se mettre à produire une quantité d'avions terrestres considérables, qui vont évidemment alimenter les Britanniques, qui vont alimenter les forces américaines du Pacifique et les forces américaines en Europe, qui vont alimenter aussi les Russes, puisqu'à l'époque, les Américains alimentent aussi l'effort de l'Union soviétique contre les nazis. Et quand on va terminer la guerre de 39-45, on a le Constellation, on a le DC-4 qui a succédé ou accompagné le DC-3 qui lui était déjà né juste avant la guerre. On a une quantité de Lockheed, enfin on a une quantité de Boeing, on a une quantité de constructeurs d'avions qui est absolument considérable, et on est capable de traverser l'Atlantique avec des avions terrestres. Mmh. On n'a pas besoin de faire des escales tous les 500 kilomètres. Alors évidemment, à l'époque, on fait New York, Terre-Neuve, on pose en Islande, l'Islande, on pose en Irlande, on pose ensuite en Europe, à Paris, à Bruxelles, etc. Mais quand même, les hydravions sont morts, ils ont été tués par la guerre de 39-45, et puis on a le jet qui est arrivé. Mmh. Les Allemands ont commencé à faire voler quelques jets, les Messerschmitt 262 notamment, et qui ont participé au combat à la fin de la guerre, qui sont pas très performants. Les Anglais ont développé le Gloster Meteor, qui lui aussi va très peu participer au combat. En revanche, très peu de temps après, 1947, Chuck Yeager va passer le mur du son avec le Bell X1.
Alors peut-être,
1949,
Michel Polacco, on peut...
les Anglais font voler le premier avion à réaction du monde.
On peut expliquer justement ce principe...
Le premier avion de ligne à réaction.
On peut expliquer peut-être, Jean-Marc Olivier, ce principe des avions à réaction qui vont marquer aussi un tournant dans l'histoire de l'aviation. Ça fonctionne comment et pourquoi c'est aussi performant ?
Alors, en fait, les avions hélices sont limités à cause de l'hélice à des vitesses, on va dire, de l'ordre de 700 km/h. Avec l'avion à réaction, on peut se rapprocher déjà du mur du son, parce que on n'a plus d'hélice. En tout cas, s'il y a des hélices de compression, elles sont carénées. Donc, c'est un mélange combustible-air qui est comprimé, enflammé, et qui exerce donc une poussée à l'arrière du réacteur. Donc là, c'est un système tout à fait révolutionnaire et qui permet de franchir un seuil dans les vitesses, oui. Mmh. Et même franchir ensuite le mur du son. Je voulais revenir aussi sur les dynamiques économiques, parce que ce sont les pays qui ont le développement économique le plus intense, une sorte de foi en la technique qui sont derrière ces progrès. Alors bien sûr, le Royaume-Uni au début, mais la France aussi, parce qu'en France, contrairement à ce qu'on pense souvent, la France n'est pas un pays en retard par rapport au Royaume-Uni, c'est un pays différent. Et en France, il y a une multitude de petites entreprises, une sorte d'industrialisation douce, invisible, et ces petites entreprises vont donner énormément d'inventeurs, de pionniers, etc., parce qu'ils maîtrisent la mécanique, ils maîtrisent les vélos, les automobiles. Blériot vient de l'automobile, les Breguet viennent, par exemple, de l'horlogerie, c'est bien connu, hein. Il y a eu d'ailleurs pas mal d'aviateurs suisses. Le luxe aussi, Mauboussin, etc., investissent dans les avions. Donc, il y a cette dynamique. Et puis, les États-Unis, c'est le premier pays au monde qui connaît la société de consommation. Mmh. Et donc, c'est le premier pays au monde où on prend l'avion régulièrement. Et comme l'a bien dit Michel Polacco, le Douglas DC-3, c'est décisif. Il fait son premier vol en 1935. Il est mis en service en 1936. Et il est produit jusqu'en 1950 à 13 000 exemplaires au total. C'est l'avion le plus produit au monde pendant longtemps. Mmh. Il faut attendre ensuite d'autres avions. Voilà, donc c'est très important d'avoir cette dynamique économique en tête, l'Allemagne aussi, le Japon, etc.
Il faudra attendre bien évidemment l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour que l'aviation de masse, entre guillemets, prenne son essor. Michel Polacco, qu'est-ce qui va, après la Seconde Guerre mondiale, justement propulser l'aviation vers le civil, vers un développement de plus en plus touristique de ce moyen de transport ?
Ben, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une expansion considérable de la population. La nativité est énorme. L'enrichissement des populations, en tout cas occidentales, est très important. Et c'est aussi le cas dans certains grands pays du Sud. Et on veut bouger. Mmh. Les gens veulent bouger. Donc les gens se mettent à prendre l'avion.
Et l'essence n'est pas chère.
Évidemment, ils veulent bouger, mais ils veulent bouger vite. Alors, l'essence n'est pas chère, mais les avions sont chers. Et l'essence, elle n'est pas chère pour vous aujourd'hui, mais elle était, à l'époque, elle était quand même chère. Et donc, prendre l'avion, à l'époque, c'était quand même quelque chose de coûteux. Et si vous voulez, on avait quelque chose comme, je ne sais plus, à peu près 1 million de passagers dans le monde en 1950. C'était considéré comme énorme, mais en fait, c'était pas grand-chose. Pensez que... on était à quasiment 1 milliard en 1970 et qu'on était à 5 milliards, enfin 4 milliards 7 en 2019. Et évidemment, on est passé d'une aviation d'avions de 30 places, 40 places dans les années 50 à des avions de 100 places à réaction dans les années 60-70, puis à la fin des années 70, on a vu arriver le Boeing 747, on a vu arriver le Lockheed Tristar, on a vu arriver le DC-10, on a vu arriver les Airbus A300, qui transportaient quasiment 300 personnes. Donc on a vu arriver des gros porteurs qui ont permis de vendre des billets d'avion pas chers, en consommant beaucoup moins de carburant par passager, et donc on a développé le transport de masse, et le transport de masse est devenu une réalité qui aujourd'hui demeure aussi une réalité avec les low cost qui évidemment ont parfois des avions plus petits, mais des modèles qui eux sont économiquement comparables aussi au développement du transport de masse. Et là-dedans, il y a une espèce d'éclipse historique qui est arrivée, Concorde. Les Russes, de leur côté, ont essayé de faire la même chose avec le Tupolev 144. Les Américains, avec le Boeing 2707. Bon, les Américains rêvaient d'un truc inouï qui était tellement compliqué et cher qu'ils l'ont abandonné. Les Russes manquaient peut-être de technologie pour arriver à réussir un avion supersonique efficace. Et ils se posaient pas la question du marché. Les Français et les Britanniques ont décidé de développer un avion pour transporter des passagers à Mach 2. Ils ont fini par se mettre d'accord sur, en fonction des possibilités, une distance à parcourir qui correspondait en gros à Paris ou Londres et New York. On a fait Concorde, qui a été un beau succès technologique, mais évidemment, sur le plan économique, un billet de Concorde. Si Concorde volait encore aujourd'hui, le prix de l'aller à New York serait de l'ordre de 10 000 euros, alors que vous pouvez avoir des billets à 250 euros pour aller à New York aujourd'hui, parce que c'est un avion dont le prix de la vitesse et du confort était absolument astronomique. Et d'ailleurs, Concorde a arrêté de voler depuis 2003, et depuis 2003, personne ne tente de refabriquer un gros porteur supersonique pour transporter des passagers.
Jean-Marc Olivier, alors il nous reste une petite minute à peine. J'aimerais peut-être pour conclure quand même qu'on évoque le futur de l'aviation. On perçoit bien la croissance exponentielle du nombre de passagers qui empruntent l'avion chaque année. Ça a un coût écologique. Je crois que l'industrie aéronautique, enfin les vols aériens représentent 2,4% du total mondial des émissions de CO2 chaque année et environ 12% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le plus important, mais il faudrait quand même réduire cette pollution-là. Alors à quoi ressemblera l'avion du futur et sur quel point il va falloir se concentrer pour qu'il soit moins gourmand en carburant ?
Alors il y a beaucoup de progrès immédiats qui sont réalisables au niveau bien sûr des réacteurs classiques, de l'utilisation de certains carburants à condition de pouvoir les produire en quantité suffisante. La grande révolution, et on travaille d'ailleurs avec mon collègue Maître Kéchidi et un autre collègue Claire Juillet là-dessus à Toulouse, sur la question de l'hydrogène et des collègues aussi de l'Université des sciences et des Aïs Supéro, etc. C'est l'hydrogène. L'hydrogène serait la grande solution, mais c'est un bond technologique considérable et puis il faut produire l'hydrogène aussi. Donc en attendant, le vol en formation aussi permet de limiter les traînées. Et puis surtout, l'avion supersonique n'est plus d'actualité parce que l'avion supersonique doit voler très très haut, tout près de donc la tropopause, donc à la limite de la troposphère. Et il endommagerait beaucoup cette couverture de la planète. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de projet. Et puis Concorde a été le plus grand désastre commercial aussi de l'histoire. Pensez que Concorde, il n'y a eu que 14 exemplaires vendus. On pense qu'il aurait fallu en vendre plus de 1000 pour commencer à gagner de l'argent. Donc là, le projet supersonique est arrêté et on revient à des projets plus réalistes.
Plus réalistes et peut-être une consommation peut-être plus raisonnable de ces vols, notamment courte distance pour des courtes périodes. Là aussi, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Michel Polaco et Jean-Marc Olivier, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.
Danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je sais comment passer le temps.
Les voyages.
Voyage par Jeanne Moreau pour conclure en musique cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema-Agnolo, Nicolas Berger à la réalisation accompagnée de Sam Bakiast, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez comme chaque jour réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve demain ou bientôt dans le grand bain de Reka et d'ici là n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voiles.